Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour des expulsions en Ille-et-Vilaine sur instruction du ministre de l'Intérieur. Reportage avec l'association Ars Nomadis en pleine construction de sa symphonie d'un nouveau quartier. De la musique dont une nouveauté, une interview avec les planteurs du Bois et Loup qui vous invite à planter 800 arbres fin novembre. Et puis, deux recommandations, une conférence et une expo. Bienvenue dans La Reine. Allez, tous les jours, on commence l'émission d'information locale avec l'info du jour. Le 27 octobre et le 7 novembre, j'ai reçu les communiqués de la préfecture qui annoncent l'expulsion récente d'une centaine de personnes étrangères qui ont commis des faits de délinquance, des éloignements, qui font suite aux instructions du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, après l'attentat terroriste qui a coûté la vie à un enseignant à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'était le 13 octobre dernier. Un jeune homme, là, ce terroriste, qui avait prêté allégeance à l'État islamique. Au-delà des fichiers d'étrangers radicalisés passés au peigne fin, ce sont plus globalement les délinquants étrangers sur qui se porte l'attention du gouvernement. La loi immigration, qui est actuellement devant le Sénat, prévoit d'ailleurs de faciliter leur expulsion. Mais déjà, eh bien, les décisions tombent avec le 27 octobre puis le 7 novembre, l'annonce de 124 expulsions. Ça, c'est sur le territoire national. En Ille-et-Vilaine, ce sont 6 individus qui ont été éloignés, délinquants et ou radicalisés. En l'occurrence, juste délinquants. Entre guillemets, condamné pour des faits d'atteinte aux biens, aux personnes, des faits de trafic de stupéfiants ou encore de violences intrafamiliales. Une façon de durcir la politique migratoire, sous de faux prétextes, diront certains. Allez, après cette info du jour, c'est le moment d'un reportage. Un reportage réalisé par Corentin Petitclerc, qui est notre volontaire en service civique jusqu'au mois de mai 2024. Corentin s'est rendu dans le quartier Beauchardonnais lundi 6 novembre pour assister à une cueillette sonore avec l'association Ars Nomadis. Le résultat, une symphonie pour un nouveau quartier qui sera à découvrir sur les plages de Beau le 1er septembre 2024. Et ce sera en compagnie de l'Orchestre National de Bretagne. Pour plus d'infos, il y a le site arsnomadis.eu.
Ce lundi 6 novembre, le collectif Ars Nomadis organisait une brigade de cueillette sonore dans le quartier Beauchardonnais. Le principe est de se rendre sur un chantier pour y enregistrer des sons, de capter tous ces bruits qui sont souvent considérés comme des nuisances. Dans le cadre du projet Building, le collectif a organisé de nombreuses cueillettes comme celle-ci, dans le but de collecter un maximum de sons qui seront ensuite réutilisés lors d'un concert symphonique en septembre 2024 qui mêlera l'Orchestre National de Bretagne et les bruits du chantier. Je me suis rendu à cette cueillette du 6 novembre afin de présenter le collectif Ars Nomadis et leur projet Building.
On va aller à la chasse du bruit.
Et en fait, on cherche du son. Donc on est venu dans le village. On a bien vu qu'il y en avait pas.
à la fin de la cueillette, en rentrant aux locaux de l'association, un moment d'échange a eu lieu entre les participants à l'atelier et les membres du collectif qui voient leur projet comme des dispositifs de rencontre entre artistes, habitants et acteurs de la société civile.
Le silence, il m'a surpris, moi. Enfin, le fait que sur le chantier, ce soit pas
fois,
superposé, quoi.
Oui, oui, quand même.
Je m'attendais à un lieu beaucoup plus vivant, avec des bruyants, des cris, pas des cris... des gens qui parlent fort, des machines, tu vois.
Non, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était particulièrement silencieux quand même.
Ouais, ouais. La
première fois. Mais bon, au 7e étage, il y avait quand même un peu de.
Oui,
de...
oui, oui,
c'est
oui,
un
oui.
Étage supérieur. Mais ça, c'est difficile à s'imaginer qu'on puisse faire une symphonie avec ça quand même. Ah. Mais devant le résultat.
Musique concrète, manière.
Ouais.
Comment il s'appelle, là, Kurt, l'inventeur de la musique concrète? Ding 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 ding.
Laisse pour un temps présent. Pierre-Henri avec Béjin.
Ouais, bah ça va se rapprocher plus de l'univers électro.
Ouais,
pas
avec
Pierre-Henri.
Avec du. Oui,
Pierre-Henri,
c'est le
premier. Fabrice Urat, là, le compositeur, il est aussi DJ. Là. Il a une formation classique, il est pianiste. Mais il est aussi, il est assez connu dans le milieu de l'électro.
Ouais.
Et voilà, il se produit un peu partout dans le monde avec ses concerts qui sont vraiment électro. Hein. Et il disait d'ailleurs que la matière qu'on lui a fournie jusqu'à présent, ça ressemble vraiment à des sons qui sont souvent utilisés dans la musique électronique et il n'a pas besoin de les retraiter derrière. Mais c'est vrai que pour nous aussi, ça va être une surprise. Parce qu'il écrit sa symphonie et pour l'instant, il ne peut pas vraiment nous envoyer tant qu'elle n'est pas interprétée. On va le découvrir à la fin. Lui, il sera en régie. Il lance des sons enregistrés. Électro et électro plus des sons de chantier.
Après, nos intermédiaires, c'est type les personnes que vous avez vues là, les promoteurs, les conducteurs de travaux, surtout, on est plutôt en contact avec ces gens-là.
Ouais.
Et puis, quelques habitants, ouais, et les gens comme vous, qui ont des brigades, et qui petit à petit commencent à parler, parler du projet. Et sinon, enfin, un gros projet aussi avec deux écoles du quartier, donc ça va toucher forcément les familles indirectement, quoi, les parents d'élèves. Différents élèves, mais voilà, ouais, c'est à petits pas, on va dire. Tout le monde, mais bon, quand on va voir les commerçants, on a fait avec les enfants, là, on est allé voir les commerçants du quartier, ils ont déjà entendu parler de building, enfin, c'est un projet, voilà, ça commence, on commence à être là depuis, c'est pour ça que c'est aussi des projets au long cours, voilà, petit à petit, même si on communique avant de toucher tous les habitants d'un quartier, c'est super bon, quoi.
Même avec les ouvriers, ça prend du temps quoi, de créer la confiance. Parce que ceux qu'on a fait... En fait, au final, on aura 4 ouvriers qui vont participer à la symphonie aussi. Les 4 ouvriers avec lesquels on aura fait les 4 duos. Donc là, Kenny, que vous voyez derrière, là, qui est le maçon, Sébastien, le plombier, et puis on en a 2 nouveaux à trouver. Ils seront vraiment... Ils seront sur la symphonie au même titre que les percussionnistes, ils seront dans l'orchestre, avec leur outil de chantier. Et donc ça arrive pour créer le contact, créer la confiance aussi. Parce qu'on...
C'est de l'investissement pour eux.
Ils n'ont aucune formation musicale.
Ils viennent à plusieurs répétitions.
Ils ne sont jamais allés sur scène.
Ce serait évident. Ils ont vraiment un public. Chez Kenny, on lui avait tout expliqué, mais quand il s'est retrouvé le jour J, devant, on était bien 300 en plus, ce jour-là. Il a dit « Ah oui, on m'aime !»
Dans le cadre du projet Building, des concerts ont déjà eu lieu dans le quartier Beauchardonnais. Ces concerts associent un instrumentiste de l'Orchestre National de Bretagne et un ouvrier travaillant sur le chantier, comme ici, Fantaisie pour truelle et violon, en avril 2023, le prochain concert du projet aura lieu en avril 2024.
Projet à côté. Ouais. Mais en ce moment, ben, on travaille sur le château de Vitré. Je sais pas si vous connaissez, on vient de faire une installation sonore immersive en haut d'une des quatre tours du château. Là, on a une petite, des petites cartes. Donc, c'est une installation permanente. Vous pouvez aller la voir. Ça raconte l'histoire d'un explorateur vitréen au XVIe siècle qui a fait le grand triomphe par voie terrestre. Et donc, ah ouais. On a proposé un plutôt sous la forme d'un rêve sonore, en fait. Donc, on a évoqué cette histoire-là.
C'est une installation permanente, en fait, qui tourne en permanence dans le château. Et donc, vous voyez derrière, là, il y a une photo. Là, on a travaillé avec un scénographe. C'était nouveau pour nous. C'est toute une installation aussi... visuel. Et là, c'était intéressant parce qu'on a travaillé en son spatialisé. C'est-à-dire que vous avez, il y a 8 enceintes et ça reproduit un son qu'on appelle son 3D. On a pu jouer sur la circulation du son, les différentes sources sonores. Ça, on vient tout juste de terminer ça.
On a livré ça, on va dire, fin mai, début juin.
Ouais.
Et on a un autre projet sur le château où on va aussi faire une création sonore pour le chemin de ronde d'une des tours, la même tour, la tour Saint-Laurent. Donc ça, c'est en cours, on n'a pas encore terminé. On a aussi un autre projet en cours avec le centre hospitalier Guillaume Régnier. Juste derrière vous, on est en train de créer une promenade sonore augmentée. Donc une promenade sonore géolocalisée. Un peu à l'image de ce qu'on a fait sur, peut-être que vous en avez entendu parler, de nos deux promenades sonores sur le quartier Beauchardonnais. Là, on est en pleine création et c'est une promenade sonore un peu particulière parce qu'on a travaillé sur tout un dispositif technologique un peu pointu pour que la personne qui fasse la promenade sonore soit géolocalisée et puisse aussi choisir la direction qu'elles veulent prendre à certains points. Donc, c'est un peu la balade dont vous êtes le héros. Quoi.
Dans tout le site de l'hôpital, du
coup. Oui, et on voudrait aller jusqu'à Bois-Perrin, qui est votre site au-dessus, si vous connaissez. Ouais.
Vous connaissez
Oui, ouais, pour moi, j'ai travaillé aussi.
C'est vrai
ouais. Parce que là, c'est du coup à destination des patients ou à destination de...
Les deux. Des soignants, des soignés, et puis évidemment des habitants.
Ouais, c'est ça. Quoi.
Ouais. L'idée, c'est aussi d'amener le grand public... sur le site,
de faire découvrir.
Bon, après, on va être sur une fiction, hein, mais avec des personnages qui sont inspirés quand même de toutes les rencontres qu'on a faites.
Sympa. Tout se fait à l'écoute. Okay. Donc, il y a une sorte, ce qu'on appelle la voix GPS qui te guide vraiment et qui te dit quand est-ce que tu dois tourner. Voilà. Et en fait, on est arrivé à ce projet au CHGR parce que de promenade géolocalisée. Parce qu'on s'est rendu compte que voilà, c'est un travail de timing assez précis à faire pour avoir un rythme de marche à peu près moyen. Donc c'est vrai que quand tu vas plus vite ou avec des enfants, tu vas moins vite. Donc la géolocalisation, ça permettait de s'adapter au rythme de marche des promeneurs, ce qui était plutôt une chouette avancée. Mais celle-ci, elle fonctionne plutôt bien. Enfin, en général, on se cale quand même sur un rythme moyen.
Il y
a rarement des gens qui se retrouvent complètement perdus. On a perdu personne. Ne vous inquiétez pas, si vous faites la promenade. Enfin, remarque, on ne sait peut-être pas. Il y en a peut-être encore qui errent. Les filles sont rentrées chez eux.
Quand tu as parlé de balade sonore, je me dis, mais ça m'évoque quelque chose. Et j'ai trouvé le Lardou, vous connaissez son nom.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, une fois, j'ai... bon, il y avait Toi Bohu, je ne sais pas si vous vous rappelez. Toi, vous avez eu un spectacle ?
Ouais, je n'ai pas vu.
C'est là que j'ai rencontré le papa de mon garçon. Rassurez-vous, je l'ai quitté. Mais. non, et il y avait un autre spectacle, c'était dans une salle je sais plus où, donc on avait les yeux, fermons les yeux à des casques, simplement, et dans le noir. Vous n'avez pas vu ça? Non, oh, c'était une qualité de son. Quoi. Tu déchires un papier de cigarette, quoi. Tu l'entends. Quoi. Mmh. Et donc, il s'était baladé dans Villejean. Enfin, à plusieurs, peut-être. Avec sa femme, peut-être. Et il y avait des trucs, mais c'était, par exemple, une femme qui se met à rire, comme ça, et ça sort, comme ça, du bâtiment. Ça t'arrive dans la... C'était vraiment... yeux... Je ne sais pas si les yeux étaient bandés. Simplement fait. Peut-être quand même bander, c'est mieux, parce qu'après on veut ouvrir, mais je sais pas trop, je m'en rappelle plus.
Ouais. Ça fait combien de temps que vous existez? Autour de trois produits.
Depuis le collectif s'est constitué en 2016.
Ah, d'accord. 16.
Ouais, ça fait 7 ans.
Ah ouais.
Le collectif. Directeur artistique. Il y avait aussi un compositeur dans l'équipe qui n'est pas là aujourd'hui, Alexandre.
Ouais,
et du coup, c'est une association.
C'est réussi,
hein,
leur
plaquette,
là.
C'est bien
fait.
Merci. Là, on a une...
super graphiste.
Une super graphiste, ouais. Illustratrice.
Ouais. C'est sympa. C'est elle qui nous fait tout le monde. Visuel.
Et donc, les deux sous-dés, c'était une commande de Destination Rennes, qui est l'office de tourisme. Pour les 400 ans du marché. Et donc on s'est amusé à faire trois chansons qui étaient sur la galette saucisse, les pommes et l'huître de Cancale. Voilà, des produits emblématiques du marché. Mm-hmm. Et on a personnifié les produits dans ces chansons, en fait. Et le produit nous raconte sa vie, quoi, de sa naissance à sa consommation. Et galette saucisse, c'est une histoire d'amour, évidemment, entre une galette et une saucisse.
Mais c'est vraiment sous forme de chanson.
C'est
vraiment podcast que chanson.
Ouais. Alors, qui c'est qui les a écrit, cette chanson?
C'est moi.
Ah, Antoine Beaufort à l'écriture.
Et Alexandre Rubin à la composition.
Et donc, il y a eu une festivité?
Il y a eu, oui. On a fait un ou deux concerts, je ne sais plus, un concert au couvent des Jacobins. En décembre dernier, on a fait un petit concert avec, en fait, la bande de pommes, c'est un quatuor. Et donc, on a fait un concert live de la bande de pommes.
Pourquoi il n'y a pas de bande, sans langue?
Bande, parce que comme un band...
C'était donc la dernière brigade de cueillette sonore organisée par le collectif Ars Nomadis avant le concert symphonique prévu pour septembre 2024. Le projet Building, c'est un projet de création sonore, mais aussi de rencontre avec des événements publics organisés dans le quartier Beauchardonnais, une zone en pleine transformation. Des concerts, des portraits sonores et photographiques d'acteurs du chantier et d'habitants, des podcasts, toutes les informations concernant le projet et l'association sont disponibles sur www.arsnomadis.eu.
À l'entrée de la maison, je suis aux abois. Je vois tous les oliviers, il ne manque que toi. Voilà que je vais quitter l'endroit que j'ai aimé, que durant des années tu as foulé des pieds. Comment garder la joie de vivre? J'ai oublié, rappelle-moi. J'ai quitté la maison ivre de souvenirs avec toi. J'ai gardé de la maison quelques photographies, quelques objets volés et les draps de ton lit. Puis j'ai avalé la clé et couru dans la nuit. Si vous me cherchez ici, sachez que j'ai fui. Comment garder la joie de vivre? J'ai oublié, rappelle-moi. J'ai quitté la maison ivre de souvenirs avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus de moi. J'ai gardé de la maison quelques photographies, quelques objets volés et les draps de ton lit. Puis j'ai avalé la clé et couru dans la nuit. Si vous me cherchez ici, sachez que j'ai fui. J'ai peur. entre tes bras. Je ne quitterai pas l'île des souvenirs avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus de moi. J'ai perdu la joie de vivre. J'ai oublié entre tes bras. Je ne quitterai pas l'île. Souvenir avec toi, je ne réponds plus de moi, je ne réponds plus de moi.
La maison de Clara Isée sur Canal B, c'est un titre que j'aime beaucoup, qui est issu du premier album de Clara Isée, son titre Océano Nox. C'est sorti le 20 octobre sur le label Tôt ou Tard. Et Clara Isée sera sur la scène, voilà, j'ai regardé les dates les plus proches de Rennes, elle sera sur la scène de la Bouche d'Air dans la salle Paul Fort du côté de Nantes, jeudi 23 novembre à partir de 20h30. Vous êtes en train d'écouter La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B, sans doute sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur canalb.fr où vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts, des émissions réalisées par les salariés et les bénévoles. Au passage, un mot sur cette newsletter, ce courrier d'information hebdomadaire que j'envoie aux personnes qui s'y abonnent. C'est une façon de vous parler des sujets qui sont abordés dans l'arène avec un focus sur un reportage, une interview, parfois des infos du jour. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez m'envoyer un petit message par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Allez, on continue cette émission avec maintenant l'interview du jour. Myriam Garing, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes la trésorière des planteurs du Bois et Loup. C'est une association rennaise qui organise un événement, une action de plantation d'arbres le 25 novembre. C'est un samedi et ça se passe à Bourbarré, donc toute la journée de 9h à 16h30 environ. Votre association, elle s'est constituée en 2021, la date est bonne ?
C'est ça, le 25 juin 2021.
De quelle façon est-ce que cette association s'est montée ?
Alors elle s'est montée, c'est au départ une initiative d'un groupe d'une dizaine d'amis, emmenée par Pascal Collin, donc la présidente, qui souhaitait vraiment pouvoir agir et agir dans le domaine de l'environnement, oui, mais agir pour pouvoir effectivement travailler pour les générations futures. Dans l'intérêt de tous, hein, mais surtout pour pouvoir ramener de la biodiversité, pouvoir planter des arbres, planter des forêts, permettre que des animaux puissent revenir dans notre environnement et transmettre aussi, c'est-à-dire pas planter seul, c'est-à-dire faire quelque chose de cette démarche, une démarche citoyenne, donc pouvoir transmettre aussi à des enfants.
Est-ce que vous étiez tous novices sur la question des arbres ou certains s'y connaissaient, avaient certaines connaissances sur le sujet ?
Alors, certains avaient déjà des connaissances. Beaucoup, et dont Pascal Collin, ont beaucoup travaillé pendant les deux années précédentes pour pouvoir acquérir des éléments d'expertise et comprendre tout ce système complexe. Et donc, petit à petit, c'est une démarche qui se poursuit. Je veux dire, on est très à l'affût de tout ce qui peut nous faire progresser, nous amener des éléments de connaissance sur ce sujet-là.
Vous êtes combien aujourd'hui chez les planteurs du Bois et Loup ? Les équipes ont grossi depuis le lancement ?
Alors, on est un tout petit peu, je dirais qu'on est un noyau dur d'une douzaine de personnes, ça c'est le conseil d'administration, et puis nous avons des adhérents qui arrivent, nous avons une quarantaine d'adhérents, et on attend beaucoup plus que ça.
Mais on va le dire, il y a donc un appel qui est lancé pour en tout cas des planteurs bénévoles pour la date du 25 novembre à venir. Il se trouve que vous m'aviez contacté avec votre association au mois d'avril, au moment lancement d'une candidature pour obtenir un soutien de la fondation Botany for Change. On avait relayé le message dans l'émission d'information locale parce qu'il fallait voter pour vous pour décrocher cette subvention. Vous avez été retenu, c'est un soutien qui n'est pas négligeable.
Ah oui, ça a été pour nous vraiment un grand bonheur de voir arriver ce prix. Déjà une reconnaissance d'un projet qui nous avait beaucoup, beaucoup mobilisés. Et où c'était le premier projet pour nous, une association très jeune. Hein, on démarrait sur un projet quand même relativement important. Et ça a été vraiment un encouragement majeur à mener à bien ce gros projet.
Avec une subvention de 8000 euros que vous avez décroché.
Voilà, donc c'était déjà une grande partie du financement des plans. Hein, et pour nous, c'était l'essentiel déjà, pouvoir acheter des arbres. Planter, oui, mais acheter des arbres, c'est essentiel.
On arrive donc à cette plantation qui est organisée à la fin du mois de novembre, le samedi 25. Ça se passera à Bourbarré. Alors Bourbarré, on est à 20 km au sud de Rennes, pas très loin, entre Saint-Armel et Cornu. Pourquoi ça a lieu dans cette commune-là? Ce sont eux qui ont entendu votre appel?
Voilà, alors c'est la présidente a envoyé, après la création de l'association, a envoyé un certain nombre de courriers aux municipalités pour leur expliquer ce qu'elles étaient nos souhaits pour nos projets à venir. Et Bourbarré a été la première municipalité à répondre, à nous convier. Et à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de rencontres pour déjà apprendre à se connaître avec l'équipe municipale, mais aussi des associations locales de Bourbarré et des habitants, et petit à petit le projet s'est construit.
Ils vous ont mis à disposition trois terrains. Vous, quels étaient les critères sur ces terrains? Il fallait qu'ils soient en friche ou non exploités et protégés durant un certain nombre d'années, ça?
Oui, alors bien sûr, on a fait une convention tout de suite avec la municipalité qui aussi garantit la pérennité de nos plantations. Hein. Bien sûr, ça c'était très important. Et puis qui cadrait aussi un petit peu les modalités. Donc oui, ils nous ont mis à disposition trois terrains qui étaient, je crois, vraiment dans leur projet d'arborisation, de végétalisation, avec aussi les habitants qui étaient associés hein, à ces projets. Notamment, il y a un terrain, par exemple, qui est proche d'une résidence et où les habitants souhaitaient qu'il y ait des arbres fruitiers plantés et pour pouvoir ensuite, au sein de leur association, gérer ce terrain planté d'arbres fruitiers avec la récolte, avec l'entretien, voilà.
Comment est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs que ce soit vous, acteur associatif, qui lanciez cette initiative, qui meniez des démarches, notamment pour trouver des subventions afin de planter des arbres et que ce ne soit pas les élus locaux eux-mêmes qui prennent l'initiative? C'est finalement ça dans plein de secteurs associatifs. Vous venez pallier un peu une action peut-être trop lente à votre goût.
Oui, évidemment. Oui. Une action, c'est évident qu'on se dit, surtout après avoir entendu l'annonce de notre président sur les fonds qu'elle a débloqué pour planter des centaines d'arbres. On s'est dit aussi que voilà, nous, on avait un souhait de pouvoir amener notre expertise et nos forces vives pour pouvoir accélérer le mouvement à notre petite échelle, mais comme d'ailleurs beaucoup d'associations, autres associations le font. Hein, et finalement, les municipalités sont aussi débordées par l'ampleur souvent des tâches. On sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de béton hein, toutes ces dernières années et que même celles qui souhaitent vraiment pouvoir remettre un peu d'arbres dans le milieu de vie des habitants, un peu d'espace arborisé, c'est compliqué et ils n'ont pas forcément toujours l'énergie et le temps à les fonds. Eh bien, je pense qu'ils étaient très intéressés de pouvoir rencontrer une association qui était à leur côté pour réaliser ce projet. Parce que, notamment en Bourbarré, enfin, il y a vraiment quelque chose qui est lancé depuis un certain nombre de mois et qui a pour objectif d'améliorer l'environnement des habitants. Bon, donc ça rentrait tout à fait dans leur projet.
La commune de Bourbarré a ciblé trois espaces pour y planter des arbres au sein de ce qu'ils appellent des îlots de verdure. Vous avez donc dû choisir des essences d'arbres. Il y en aura 800 de plantés en tout, hein, des arbres. Votre idée, c'était de choisir des essences locales, plutôt adaptées aussi en pensant au réchauffement climatique.
Tout à fait. Alors nous, c'est une condition. Nous nous fournissons auprès des pépinières labellisées végétales locales, dont nous prenons des essences locales. Et c'est incontournable. durable. Il ne s'agit pas de planter des essences qui ne pourront pas survivre.
On peut donner des exemples d'essences locales ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui vont être plantées le 25 novembre parce que nous avons quand même beaucoup d'arbres hauts et moyens âgés. Il y a beaucoup d'arbustes et des buissonnants. Hein, voilà, il s'agit de faire des choses un peu différentes. Alors, il y a aussi eu une concertation assez importante avec les habitants qui ont pu exprimer aussi leurs souhaits, qui ont pu nous dire aussi qu'ils ne souhaitaient pas d'arbres allergisants, enfin de choses aussi comme ça. Ou justement les fruitiers par exemple, c'était vraiment le désir de certains, mais je dirais que ce sont les arbres habituels que les personnes rencontrent dans leur forêt. Nous n'allons pas chercher des essences exotiques ou surtout nous n'allons pas faire de plantation avec une essence d'arbre comme ça peut se faire, comme on peut le trouver. Hein. Nous, il s'agit de reconstituer, je dirais, des espaces tels qu'ils peuvent se trouver dans la nature que l'on peut voir encore autour de nous. Heureusement, on en voit encore beaucoup dans la région.
Et ces arbres, ils vont donc être plantés en tout sur une surface de 5000 mètres carrés sur la commune de Bourbarré. Vous avez donc travaillé avec les services techniques de la commune pour affiner votre projet. Là, dans les semaines avant la plantation, est-ce qu'on peut donner un peu à voir tout ce qu'il y a à faire finalement avant de planter l'arbre ? Il y a tout un terrain de préparation du sol ?
Oui, alors nous sommes allés déjà bien sûr faire une reconnaissance des terrains, nous sommes allés faire des prélèvements de sol pour pouvoir voir comment était la terre, quelles étaient les conditions. Bien sûr qu'on a travaillé avec les services techniques pour préparer les sols, donc justement aujourd'hui nous étions sur place pour pouvoir et marquer les endroits de plantation avec des piquets de couleurs suivant que c'était des ogées, des moyens ogées ou des arbustes. On a pu voir qu'effectivement le sol avait été préparé sur certains endroits, d'autres il y avait une nécessité sur un autre terrain de mettre un paillis qui puisse vraiment rendre la terre je dirais plus hospitalière pour les plants qu'on allait pouvoir y mettre. Voilà, donc il y a vraiment un travail de coordination avec les services techniques de la municipalité. C'est essentiel, ce sont eux qui vont entretenir aussi ces espaces ensuite. Donc il fallait qu'ils puissent vraiment être très intégrés d'emblée dans le projet.
Alors, je reviens à ces 800 arbres que vous allez planter. Donc, vous êtes notamment allé dans des pépinières. Vous avez aussi pu bénéficier de plans offerts par un habitant, c'est ça, de la commune ?
Oui, alors un habitant de Bourbarré qui a, je crois, un espace assez vaste autour de sa maison et qui avait naturellement des petits arbres qui sortaient de terre, comme on peut avoir dans un espace très planté. Et donc, ils nous proposaient de les récupérer. Donc, nous sommes allés les repérer, les étiqueter, et nous allons en récupérer un certain nombre qui vont être plantés.
Parce qu'on ne se rend pas compte, du coup, ça coûte combien, en fait, d'acheter un plant d'arbre ?
Alors, oui, c'est très variable. Mais on n'achète pas un plant tout seul. Déjà, on achète un plant avec tout un système de protection. C'est-à-dire, si on met un jeune plant, il y a tous les risques qu'il soit mangé par les lapins. Voilà. Donc, il faut protéger. Donc, il y a les piquets, il y a le système de protection autour. Je veux dire, on va dire qu'on peut, pour 5 euros, avoir un jeune plant et son système de protection autour. Après, les prix varient selon la taille des plants.
Le financement, il est donc en partie assuré là, par cette subvention que vous avez obtenue avec la Fondation Botany for Change. Et maintenant, vous avez donc besoin de bras pour mener cette opération samedi 25 novembre. Ça se déroule de 9h à 16h30, donc sur la commune de Bourbarré. Il faut penser à s'inscrire pour participer. Vous faites appel aux habitants parce que c'est aussi dans l'ADN de l'association. C'est pas juste planter des arbres, mais c'est le faire ensemble.
C'est le faire ensemble, c'est le faire avec les enfants pour qu'ils puissent finalement autour de ce projet travailler sur les arbres, sur la nature, sur l'écologie, avec ou les personnes du centre de loisirs puisque les enfants dans les centres de loisirs planteront, ou avec les écoles puisque écoles publiques et écoles privées de Bourbarré participent à ce projet. Et puis toutes les bonnes volontés qui voudront se joindre à nous et pour cette plantation, et aussi pour faire vivre l'association et pour pouvoir participer au projet futur.
Et donc pour ça, il faut s'inscrire. L'adresse email, c'est lpb@ecomail.bzh, lpb pour les planteurs du Bois et Loup. Donc voilà, pour participer à ce temps de plantation du samedi 25 novembre qui dure toute la journée. Et il se passe quoi alors après la plantation? Vous laissez les services techniques de la commune vous en occuper et vous cherchez, vous mettez en quête d'autres terrains sur la région bretonne? Alors,
bien sûr, la commune et les services techniques vont vraiment être très attentifs aux plantations. Nous y aurons un œil aussi. Je pense que quand on s'investit sur des actions comme ça, on a envie de suivre un petit peu les choses. Et les habitants, hein, puisque il y a deux terrains, justement, qui sont vraiment très proches d'habitations et ces terrains-là font partie d'un environnement très proche. Donc là, les habitants qui ont participé au projet, d'ailleurs, on va aller leur présenter les projets finalisés de plantation. Donc, ce sont eux qui vont aussi beaucoup s'investir dans le suivi.
Et il faudra combien d'années pour qu'ils voient ces arbres à leur plus haut ?
Quelques années, parce que finalement, ça aussi, c'est important de le dire, plantons des plants très jeunes. Plus le plant est jeune, plus il a de force et de vitalité pour s'ancrer dans le sol et pousser beaucoup plus vite qu'un plant qui aurait 5-6 ans. Voilà, qui serait plus haut au départ, mais qui aurait beaucoup plus de mal à démarrer. Donc, au départ, effectivement, la plantation peut-être va étonner les personnes qui vont venir en voyant tous ces tout petits plan, mais ça va aller très vite. Ils vont dans les années à venir, ils vont pousser très vite.
En moyenne, je crois que c'est 20 ans, non, pour qu'un arbre soit...
Pour un arbre qui soit déjà d'une belle taille, oui, oui. Mais là, ça ira dans les premières années, c'est plus spectaculaire.
Est-ce que si des auditeurs qui nous entendent et qui ont justement des terrains en friche, non exploités, à disposition et qu'ils sont intéressés par votre projet, ils peuvent vous contacter? Vous êtes à la recherche d'autres terrains pour...
Oui, tout à fait, parce que finalement, là, il s'est trouvé qu'il y a le projet aura lieu à Pleurtuy, c'est une municipalité aussi qui nous a répondu, mais bien sûr que on est prêt à étudier tout projet sur un terrain qui serait mis à notre disposition, évidemment.
Je vous représente Myriam Garing, vous êtes la trésorière des planteurs du Bois et Loup, une association rennaise qui organise une action de plantation d'arbres. C'est samedi 25 novembre, toute la journée à Bourbarré, à 20 km au sud de Rennes. Pour s'inscrire, une adresse email lpb@ecomail.bzh. Et puis on vous retrouve aussi en ligne sur un site internet lesplanteurs.bzh. Merci beaucoup.
Merci.
Time.
Fleur Bleue avec Around the World, une nouveauté musicale qui a été choisie par Yann Barbotin, notre programmateur musical ici à Canal B, et qui est à retrouver sur l'album Unrequited Love. C'est sorti le 20 octobre chez Pan European Recordings. Et c'est le premier disque pour ce duo parisien que vous écoutez donc dans l'arène, l'émission d'info locale de Canal B, qui se poursuit et qui va même se terminer avec la recommandation du jour. Et c'est pas une, mais deux recommandations du jour aujourd'hui. Donc à chaque fois des conseils de choses à voir, à lire, à écouter ou à vivre. Premier événement, une rencontre jeudi 9 novembre à 18h30. Ça se passe dans l'auditorium des Champs Libres à Rennes. Le public pourra découvrir un manuscrit enluminé du XIIIe siècle consacré au roman de la Table Ronde. Et c'est Sarah Toulouse, conservatrice du fonds ancien, qui racontera l'histoire de ce joyau du Moyen-Âge. Une rencontre qui est gratuite. Pour plus d'infos, il y a le site leschampslibres.fr. Deuxième conseil du jour, c'est une exposition rétro Brechini. C'est son nom et c'est à voir depuis le 30 octobre et jusqu'au 30 décembre à la bibliothèque des Champs Manceaux au sud de Rennes. Un travail qui a été réalisé par 7 habitants et riverains du quartier Brechini qui, en partant de 4 idées reçues, ont exploré l'histoire, la sociologie et l'architecture du quartier en s'appuyant sur les collections du musée de Bretagne, des archives de Rennes et d'Aiguillon Construction. Le vernissage de l'expo, c'est vendredi 10 novembre à 18h. Et puis, dans les semaines à venir, des visites accompagnées seront proposées au public. La première de ces visites, c'est mardi 14 novembre à 17h. On peut aussi annoncer la semaine suivante la conférence d'André Sauvage, auteur rennais, sur l'histoire de la ZUP Sud. ZUP pour zone à urbaniser en priorité. Ça, c'est mardi 21 novembre, toujours à 17h30. Le détail est à retrouver en ligne sur le site archives.rennes.fr, les archives de Rennes qui sont donc partenaires de cette exposition. L'arène, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h pour le podcast. Rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.